Merci d'être avec nous sur RFI. Il est tout juste midi en temps universel, 13h ici à Paris, 15h à Alep.
Charlotte Idrac.
Et à la une, cette fulgurante offensive des djihadistes et rebelles à Alep en Syrie, l'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de raids aériens russes pour soutenir le régime de Bachar el-Assad. Des attaques israéliennes sur des infrastructures du Hezbollah ce samedi à la frontière entre la Syrie et le Liban, malgré le cessez-le-feu conclu cette semaine, à chacun son interprétation de l'accord. Sécurité renforcée autour des installations essentielles au Kosovo après l'attaque d'un canal crucial pour des centrales électriques. Pristina accuse la Serbie qui dément. 24 heures chrono pour trouver un consensus contre la pollution plastique. Dernière ligne droite et intense bataille diplomatique au sommet de Busan en Corée du Sud.
RFI midi.
Les premiers discours de campagne en Allemagne avant les élections de février et la désignation attendue de Friedrich Merz, candidat de la CDU pour le poste de chancelier. Les forces en présence, les enjeux, on en parlera avec notre invité. À suivre aussi le symbole de Jaguar, la marque de véhicule n'est plus un Jaguar, une petite révolution pour le constructeur, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis les sports du foot et encore du foot au programme, c'est dans 10 minutes. Oui, l'aéroport d'Alep est fermé, tous les vols annulés, les routes principales menant à la ville sont bloquées après l'offensive éclair donc menée par les djihadistes et les rebelles sur la métropole syrienne. Et Guilhem Deltay, l'armée syrienne reconnaît ce samedi de lourdes pertes.
Oui, Charlotte, l'armée du régime syrien évoque des dizaines de soldats tués ou blessés dans des combats qualifiés d'intenses aux abords d'Alep et de la ville d'Idleb, déjà contrôlée par les rebelles. Mais le bilan pourrait être plus lourd encore, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une organisation indépendante. L'offensive lancée par cette coalition de groupes djihadistes et rebelles a fait plus de 300 morts, sans préciser s'il s'agit de civils ou de combattants. L'avancée est telle, en tout cas, que le régime ne peut plus la nier. Damas a reconnu ce samedi que des combattants anti-régime ont pénétré dans de larges parties d'Alep, dit-il, mais les autorités veulent atténuer la portée de cette percée. D'abord, affirme-t-elle, les rebelles n'ont pas pu se fixer dans la ville en raison des bombardements menés par les aviations russes et syriennes, les premiers depuis 2016. Et le régime assure que le départ de ces troupes de la ville est en réalité un repli stratégique pour renforcer les lignes de défense et préparer une contre-offensive. Mais cette communication tardive, Charlotte, cache mal le revers que l'armée loyaliste vient d'essuyer. Alep est la deuxième ville du pays en taille. C'est une ville aussi que le régime a eu du mal à reconquérir lorsqu'il avait perdu le contrôle de sa partie est dans les premières années de la guerre civile. Les combats avaient duré 4 ans et n'avaient abouti qu'après d'intenses bombardements menés avec le soutien de la Russie déjà.
Guilhem Deltay, c'est à la frontière entre la Syrie justement et le Liban que l'armée israélienne a mené ce samedi un raid aérien, un raid contre des sites utilisés selon elle par le Hezbollah pour faire passer des armes. Et cette opération illustre la fragilité de l'accord de cessez-le-feu conclu cette semaine entre Israël et le mouvement chiite libanais Paul Khalifé.
Les violations israéliennes de l'accord de cessez-le-feu se multiplient au Liban, freinant le retour des déplacés et entravant le déploiement de l'armée libanaise. Un drone israélien a pris pour cible ce matin une voiture dans la région de Tyr et 4 obus se sont abattus sur la localité de Khiam dans le secteur oriental de la frontière. Dans la nuit, l'armée israélienne a lancé des fusées éclairantes et tiré des rafales de mitrailleuses contre plusieurs localités, alors que le survol du territoire libanais par des drones se poursuit. Des sources politiques et militaires libanaises expliquent la multiplication des violations par la volonté d'Israël d'imposer son interprétation de l'accord de cessez-le-feu. Celui-ci ne lui accorde pas une liberté d'action sur le territoire libanais, mais Israël soutient que ce droit figure dans une annexe qui fait office de garantie signée avec les États-Unis. Or, le Liban n'est pas signataire de cette annexe et ne s'estime pas concerné par son contenu qui constitue, selon lui, une violation de sa souveraineté nationale. Le chef de l'armée, Joseph Aoun, a exprimé ses craintes de la poursuite des violations israéliennes au général américain censé diriger le comité de supervision de l'application de l'accord de cessez-le-feu. L'officier, arrivé vendredi à Beyrouth, a promis de soulever la question avec la partie israélienne. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI.
Par ailleurs, le ministre libanais de la Santé a fait état tout à l'heure de 3 blessés après une frappe israélienne contre un véhicule dans le sud du Liban.
RFI à Tbilissi, 102.9 FM.
Plus d'une centaine d'arrestations en Géorgie, 107 précisément après les nouvelles manifestations d'hier soir à Tbilissi et dans d'autres villes du pays. La police anti-émeute est intervenue dans la capitale pour disperser la foule à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. C'est la décision du gouvernement de repousser les discussions sur l'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne qui a déclenché cette nouvelle phase de mobilisation. Un mois après les législatives remportées par le parti au pouvoir rêve géorgien mais contesté par l'opposition et la présidente pro-européenne Salomé Zourabichvili qui s'est dite hier soir solidaire du mouvement de résistance. Réunion d'urgence ce matin du Conseil de sécurité du Kosovo et sécurité renforcée autour des sites stratégiques. Après une explosion sur un canal crucial pour le secteur énergétique du pays, un canal qui alimente deux centrales thermiques, et le Kosovo accuse la Serbie, Laurent Rouy.
L'explosion a coupé une importante canalisation d'eau au Kosovo, entraînant un risque pour les deux centrales au charbon du pays, dont la production d'électricité dépend de cette source. La coupure prive aussi d'eau potable une grande partie du nord, dont une région peuplée presque exclusivement de Serbes. Pour le Premier ministre kosovar Albin Kurti, il s'agit d'un acte terroriste orchestré par Belgrade. Au contraire, la Serbie, qui condamne aussi cette attaque, suggère que les autorités kosovares sont mêlées à l'explosion qui va à l'encontre des intérêts des Serbes locaux. Les États-Unis et l'Union européenne ont fermement condamné cet acte, tandis que les autorités kosovares ont mené ce matin des perquisitions et auraient procédé à des arrestations. Par ailleurs, la brèche a été en partie colmatée, ce qui devrait permettre la production d'électricité, mais n'assure pas l'eau potable à la population. Depuis 2021, les relations entre le Kosovo et la Serbie sont presque inexistantes. Pristina exerce une pression administrative sur les Serbes du Kosovo, qui pousse de nombreux habitants à s'exiler, tandis que Belgrade a soutenu l'an passé une attaque paramilitaire au Kosovo, ayant entraîné 4 morts, dont un policier albanophone. Laurent Rouy, Belgrade. RFI.
Et le Premier ministre au Kosovo vient de confirmer plusieurs arrestations sans plus de précision pour le moment. Pas de commentaire après la visite surprise de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien aux États-Unis hier pour un dîner avec Donald Trump. Sachant que le président élu a annoncé des droits de douane de 25% au Mexique et au Canada sur l'ensemble des produits importés aux États-Unis, ce qui fait craindre une guerre commerciale. Au Vietnam, le feu vert du Parlement pour le financement d'une ligne de train à grande vitesse, montant de ce projet l'équivalent de 37 milliards de dollars. Cette ligne nord-sud reliera la capitale, Hanoï, à Ho Chi Minh Ville, donc plus de 1500 kilomètres, et donc devrait faire passer le temps de trajet de 30 heures actuellement à seulement 5 heures. C'est la dernière ligne droite des négociations au sommet sur le plastique à Busan, en Corée du Sud. Il se termine en principe demain dimanche. Ça bloque notamment entre les pays favorables à un traité fort qui s'attaquerait à l'ensemble du cycle de vie du plastique, de la production aux déchets. Et en face, ceux qui veulent que l'accord se limite à la gestion des déchets et au recyclage. Pour les dernières heures de négociation, quelques ministres sont venus en renfort de leur délégation. C'est le cas de la ministre française de l'énergie, Olga Givernet, correspondante Sergio Fioretti.
Arrivée hier à Busan, en Corée du Sud, pour suivre la fin des négociations sur le traité sur la pollution plastique, Olga Givernet s'affiche déterminée à trouver un accord, un texte que la France veut ambitieux.
C'est très important que la France soit ici, évidemment, pour ces négociations sur le plastique. C'est un point important parce que nous sommes très présents au sein de l'Union européenne pour avoir un traité ambitieux sur le plastique. Ambitieux, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas simplement à avoir un autre traité sur la gestion de déchets plastiques, mais c'est surtout pour avoir d'autres points que sont la réduction de la production du plastique. C'est important de faire comprendre que pour les générations à venir, nous sommes à un moment historique de décision et qu'il ne faut pas passer à côté.
À 24 heures de la fin des négociations, le ministère de la Transition écologique souhaite arriver à un consensus avec toutes les parties pour donner sa chance au multilatéralisme. Olga Givernet compte s'entretenir avec le vice-ministre chinois de l'Environnement pour trouver un accord avec ce pays opposé à la réduction de plastique. L'option du vote sur le texte, comme le proposent les pays vulnérables, n'est pas envisagée par Paris. C'est le Fioretti, Busan, RFI.
Et en marge de ce sommet, des militants de Greenpeace ont abordé un navire pétrochimique au large de la Corée du Sud. Ils ont escaladé le mât du bateau et déployé une banderole réclamant un traité fort sur le plastique. Les sports, avec vous Florence Valmet, pas mal de foot aujourd'hui, notamment un choc en Bundesliga. Le Borussia Dortmund accueille le Bayern Munich.
Le classiqueur, comme on l'appelle, va opposer deux favoris au titre lors de cette 12e journée. Le Bayern Munich, leader du championnat, est invaincu et a battu cette semaine le PSG en Ligue des Champions. Le Borussia, lui, arrive également fort d'une victoire en Ligue des Champions face au Dynamo Zagreb, mais manque de constance en Bundesliga. L'équipe est 5e au classement. Le jeune milieu anglais du Borussia, Jamie Gittens, a bien compris l'importance particulière de ce duel.
Le Bayern Munich est évidemment un énorme adversaire. La rivalité que nous avons avec eux est intense ces dernières années, donc ça n'est pas un match normal. Je ne peux pas le dire parce que ça n'est pas le cas. À Dortmund, on sait qu'on doit le gagner pour que les gens se sentent bien et ça serait un gros soulagement pour tout le monde. Je pense que l'équipe devient de plus en plus forte. Là où on perd nos matchs, on reste solidaire. Donc dans cette période difficile, on bâtit une alchimie de groupe. Et un jour, ça fonctionnera. J'ai l'impression que ce sera bientôt, ce week-end ou à un autre moment.
Et Borussia Bayern, coup d'envoi à 17h30 TU.
En France, la 13e journée de Ligue 1, ça a débuté hier et avec une belle prestation de Lens face à Reims.
Un succès 2-0 pour le Racing Club de Lens qui souffle un peu après avoir encaissé 3 défaites sur ses 4 derniers matchs. Les 100 et or retrouvent pour le moment les places européennes, 6e au classement en attendant les autres matchs de cette journée. Reims, de son côté, n'a pas su faire la différence avec très peu d'occasions et un jeu décevant. Les Rémois restent comme même dans la première partie de tableau, mais doivent s'améliorer, explique le défenseur ivoirien Emmanuel Agbadou au micro de DAZN.
On n'a pas été dangereux devant le but adverse. On ne peut que s'en prendre à nous-mêmes. On a eu des opportunités, on a eu le ballon. Sauf qu'on ne s'est pas créé des occasions franches et voilà, on a perdu ce match. Déjà, on avait parlé avant le match d'un second ballon et on n'a pas été présent dans le second ballon. Et c'est aussi ça qui marque le premier but. Mais bon, on va retenir là-bas, on va essayer de travailler pour la suite.
La 13e journée de Ligue 1 se poursuit avec 3 matchs au programme aujourd'hui. Rennes-Saint-Etienne, Brest-Strasbourg et PSG-Nantes.
Le foot féminin, cette fois avec l'équipe de France qui dispute un match amical en préparation des prochaines compétitions.
Les Bleus rencontrent le Nigeria ce soir à Angers. Le sélectionneur Laurent Bonadei et ses joueuses s'attendent à un match compliqué avec des Nigérianes très puissantes et rapides. Pour rappel, le Nigeria était présent au JO et avait tenu tête à l'Espagne, championne du monde en titre qui s'était difficilement imposée 1-0. Le Nigeria qui a également atteint en 2023 les 8e de finale de la Coupe du Monde, battue au tir au but par l'Angleterre. Il faudra donc se méfier. France-Nigeria, c'est à partir de 20h10 TU. Après le Nigeria, les Françaises rencontreront l'Espagne, justement, le 3 décembre prochain. Des matchs amicaux en préparation de la Ligue des Nations en février, puis de l'Euro l'été prochain.
Les sports, Florence Valmet sur RFI. Merci, 13h13 à Berlin. Premier discours de campagne aujourd'hui en Allemagne en vue des élections anticipées prévues le 23 février. Et aujourd'hui, la CDU, le parti chrétien-démocrate, doit désigner Friedrich Merz comme candidat au poste de chancelier pour faire face, entre autres, au sortant Olaf Scholz. Bonjour Valérie Dubslav.
Bonjour.
Enseignante-chercheuse en histoire et civilisation du monde germanique à l'Université Rennes 2. Merci d'être en direct avec nous pour décrypter les enjeux, hein, les rapports de force aussi en vue de ce scrutin. D'abord sur Friedrich Merz, qui doit donc être désigné candidat de la CDU. Quel est son profil? Quel est son parcours?
Alors Friedrich Merz va à 69 ans et il vient de Rhénanie du Nord-Westphalie, il est catholique et il a une carrière politique assez classique pour un Allemand, c'est-à-dire qu'il a été député du Parlement allemand, du Bundestag, et puis il a fait une carrière assez rapide au sein de son parti qui est l'Union chrétienne démocrate, la CDU, mais il a été écarté par Angela Merkel, qui avait des ambitions à l'époque, début des années 2000, et donc c'est elle qui a brigué la présidence du parti, et donc à ce moment-là, là, il s'est un peu retiré du parti et de la politique. Il a intégré le monde des affaires, il a travaillé pour HSBC, il a travaillé pour BlackRock avant de faire son grand retour dans la politique et profiter du départ d'Angela Merkel de la chancellerie pour se positionner au sein du parti. Et donc, il a été élu président du parti et de la CDU en 2021. Et donc, il est assez naturel qu'il soit le candidat de la CDU aussi à la chancellerie.
Et les rapports de force semblent lui être favorables à ce stade, d'après les sondages. Aujourd'hui, la CDU, les conservateurs font la course très en tête.
Absolument, oui. Donc dans les sondages, donc ça peut encore changer, mais il aurait la CDU-CSU, donc avec le frère bavarois, ils auraient 32%. Donc effectivement, ils sont en tête et Merz est quasiment sûr d'être le prochain chancelier. Après, la question est de savoir avec qui.
Voilà.
Avec qui pourra faire une coalition.
La fameuse question des coalitions en Allemagne. Et alors, on va y revenir. Mais d'abord, vous disiez 32% des intentions de vote devant l'extrême droite de l'AfD, 18% environ, le SPD de Olaf Scholz 15%, donc en mauvaise posture. Comment le sortant Olaf Scholz, fragilisé justement par la rupture de sa coalition avec les Verts et les Libéraux, pourrait, selon vous, remonter la pente?
Disons que lui, il y croit beaucoup. Il était déjà très très optimiste en 2021 et ça a marché. Donc cette année, à nouveau, il est très optimiste, mais il part avec deux handicaps quand même assez importants. Le premier, vous l'avez dit, c'est qu'il est décrédibilisé parce qu'il n'a pas réussi à fédérer, il n'a pas réussi à consolider cette coalition qui mourait à petit feu. Et donc, il se raffaiblit de cette coalition. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il y a eu une discussion autour de la pertinence de le choisir comme candidat. Parce que certains, au sein de son parti, auraient préféré de voir le ministre de la Défense, à savoir Pistorius,
être
candidat. Donc, il a quand même réussi à s'imposer, mais donc ça l'a affaibli encore davantage.
L'AfD, l'extrême droite, avait gagné du terrain aux dernières élections partielles. Est-ce que dans ces semaines de campagne, on pourrait s'attendre à encore plus de terrain gagné, selon vous?
La campagne le dira. Je pense que la campagne va vraiment débuter après le vote de confiance le 16 décembre. Là, on est encore un peu dans une phase un peu... C'est trop tôt pour le dire, mais il est tout à fait possible que l'extrême droite avec l'AfD réussisse à grappiller encore plus de voix. Là, actuellement, elle est à 18%, ce qui est un excellent score pour l'AfD. Donc, elle a gagné 6 points par rapport aux élections de 2021. Il faudra voir quelle sera la dynamique, les thèmes qui s'imposeront, par exemple, durant la campagne. C'est l'immigration, le thème de l'immigration est important, il risque effectivement d'avoir une certaine dynamique, donc à voir, mais c'est possible.
Et en vue d'une éventuelle victoire de la CDU, est-ce qu'on voit déjà se profiler des rapprochements, justement en vue d'une éventuelle coalition?
Alors oui, timidement, c'est-à-dire que après c'est une question d'arithmétique, donc la CDU n'a pas énormément de choix non plus. On pense que la CDU fera sans doute, mènera une coalition avec le SPD, donc une grande coalition. Il y en a déjà eu pas mal ces dernières années. Donc, on peut envisager sinon une coalition entre la CDU-CSU, donc des conservateurs avec les Verts. Mais il y a certains, surtout les Bavarois, les chrétiens sociaux de Bavière, sont contre une coalition avec les Verts. Donc, mais c'est à peu près tout. Enfin, il n'y aurait pas d'autres possibilités. Les libéraux, le FDP, sont actuellement à 4%, donc ils ne sont pas sûrs d'entrer au Parlement. Donc, la CDU n'a pas tellement le choix non plus. Donc, elle s'oriente plutôt vers une coalition, une grande coalition avec le SPD, sans doute.
Alors, parmi les thèmes de campagne qui débute, il y a le soutien à l'Ukraine, le soutien ou pas. Qu'est-ce qui distingue les candidats? On a vu Olaf Scholz se présenter récemment comme un peu l'homme de la retenue dans le soutien militaire à Kiev.
Toujours. Scholz a toujours dit qu'il défendait inconditionnellement l'Ukraine, mais on voit que dans les faits, il était extrêmement attentiste, très très prudent. Il attendait toujours d'avoir l'aval des États-Unis avant de prendre une décision, parce qu'il a peur que l'Allemagne devienne partie prenante dans cette guerre. Donc c'est vraiment le gros enjeu. Là, il y a eu un grand débat autour de la livraison ou non de ces missiles à longue portée, les Taurus. Donc Scholz était contre. Merz, au contraire, on a l'impression qu'il rejoue un peu la guerre froide, c'est-à-dire que lui, il a une position extrêmement anti-russe et donc lui, il est vraiment pour un soutien très ferme, donc en armes et en fonds, pour l'Ukraine. Donc il prend un peu le contre-pied de Scholz. Et puis d'autres, comme l'AfD, donc l'extrême droite, qui, au contraire, se disent pacifistes, qui sont plutôt pro-poutiniens, je pense qu'on peut le dire assez clairement, et qui, eux, disent qu'ils veulent un traité de paix très rapidement, lancer des négociations entre l'Ukraine et la Russie très rapidement. Donc eux, ils prennent encore une autre position par rapport à la guerre en Ukraine.
L'un des thèmes donc de cette campagne, marquée aussi par des préoccupations sur l'économie. Merci à vous Valérie Dubslaff, enseignante-chercheuse en histoire et civilisation du monde germanique à l'université Rennes 2. À bientôt pour décrypter cette campagne en vue des élections anticipées en Allemagne. On part maintenant au Canada, où la relation entre les institutions publiques et les peuples autochtones reste très compliquée, très complexe, marquée par un passé douloureux de colonisation et d'assimilation forcée. Mais il y a des initiatives pour revaloriser la place des autochtones au sein des institutions du pays dont ils sont les premiers habitants, comme dans l'enseignement supérieur. Et c'est le cas tout particulièrement au collège Ainsik à Montréal. Reportage sur place, Alexis Cacon.
Mon nom c'est Gilbert Nikui. J'appartiens au territoire de Neapskak.
Gilbert nous reçoit dans un local dédié aux étudiants autochtones du collège, un lieu décoré d'une grande fresque qui représente la forêt boréale. Ici, les étudiants discutent, échangent et font de l'artisanat traditionnel.
Tu repasses dans la même perle avec ton fil.
Cette journée-là, Gilbert organise un événement de perlage pour fabriquer des boucles d'oreilles.
En forme de tipi.
Gilbert est le facilitateur à la vie étudiante autochtone. Il s'assure que les professeurs sont sensibilisés à la culture des Premières Nations, comprennent les effets que le colonialisme a eu sur les autochtones et facilitent l'accueil des élèves des premiers peuples du pays qui sont parfois déboussolés quand ils quittent leur communauté.
On les intègre dans notre démarche du début jusqu'à la fin. Puis c'est ça qu'on parle d'une vraie autochtonisation. Pour que ces étudiantes autochtones-là aussi puissent sentir vraiment bienvenus ici puis qu'ils se sentent chez eux, ils n'ont pas des étrangers.
Vas-y, tu vas me corriger hein, si je fais pas comme il faut.
Parmi les étudiants autochtones du collège qui viennent enfiler des perles, il y a Fabienne Théoret-Jérôme qui appartient à la nation Anishinaabe de la communauté du lac Simon. Elle a vécu un choc culturel en arrivant au collège qui compte plus de 7000 élèves. Gilbert l'a bien aidée.
Avec une personne non autochtone, ben souvent il n'y a pas le lien de confiance. Tu sais pas si cette personne-là va comprendre c'est quoi être autochtone. Genre, elle va croire en ton trauma puis croire en la difficulté que tu vis juste en étant autochtone dans un milieu non autochtone.
Qu'est-ce que ça représente, cette difficulté-là?
Tu sais, c'est comme de toujours avoir expliqué qui je suis parce que ces gens-là pensaient même pas que j'existais encore, genre. Ou qui pensaient qu'on vivait encore dans des tipis. Tu sais, j'aimerais ça que quand les gens... Tu sais, c'est comme quand tu dis « Ah oui, je suis Québécois. OK, on sait t'es quoi. Genre, OK, je suis Mexicain. OK, on sait t'es quoi. Mais pourquoi moi, quand je suis chez Anishinaabe, personne ne sait chez qui? »
C'est eux autres, des coquillages.
Dans cette petite salle, on retrouve aussi des objets autochtones qui permettent aux étudiants de pratiquer leur spiritualité, comme un petit coquillage où ils peuvent brûler de la sauge, ce qui est très utilisé parmi les Premières Nations pour se purifier, se smudger, comme Fabienne l'explique.
Ça sent tellement bon, là. Fait qu'on utilise ça, puis on commence toujours par brûler pour que la boucane blanche commence à se créer. Puis là, après ça, on va se nettoyer avec la boucane.
Ces dernières années, l'enseignement supérieur au Québec tente de favoriser l'inscription des autochtones en multipliant les initiatives du genre. Par exemple, dès la rentrée, dans la plus prestigieuse université du Québec, l'université McGill, les autochtones n'auront plus à payer pour étudier. Alexis Gacon, Montréal, RFI.
Et bon réveil si vous nous écoutez à Montréal. Il est tout juste 7h22.
RFI Midi.
C'est un virage délicat pour Jaguar. Le constructeur automobile britannique va dévoiler, là, lundi, ses nouvelles voitures imprimées de son nouveau logo. Exit le Jaguar, le célèbre félin bondissant. Il est remplacé par deux lettres dorées, très sobres donc, trop d'après les commentaires très critiques sur Internet. Alors, qu'est-ce qui fait un bon logo dans les transports? C'est l'occasion d'élargir le débat avec des experts du design et Marina Mielzarek.
L'animal, le jaguar qui fait un bond sur les carrosseries, n'existe plus. Il est remplacé par deux lettres dorées, deux J, le J de Jaguar. Alors ceux qui aiment ce nouveau logo saluent la nouveauté, mais surtout le culot pour ce changement radical. La marque britannique explique qu'il fallait bien cette radicalité pour incarner le changement de leur industrie, le passage à tous leurs véhicules désormais électriques. Les logos, l'image, Mathilde Delécotet les connaît bien. Créatrice française, elle a fondé son entreprise de design, l'agence Mathilde Delécotet.
J'aimais le Jaguar, la bête, vous ne pouvez pas le confondre avec une autre marque. Alors est-ce que pour autant on en perd l'identité et la signature de Jaguar? Eh ben, moi j'aurais tendance à dire que oui. Aujourd'hui c'est une marque avec ce J inversé ou comme Jaguar tout simplement, il pourrait être plaqué sur n'importe quelle autre chose. Là, quand ils avaient l'ancien logo du jaguar bondissant, ils montraient bien effectivement rapidité, force, le rebond. Et quand on a juste ce jaguar, effectivement, c'est très luxe. La couleur peut être très importante. Mais quand on parle du doré, le doré, finalement, il est assez commun à tout le monde, qui en plus est effectivement est une cinquième couleur, vous savez, à l'impression. La couleur dorée comme l'argent, c'est une cinquième couleur, une impression à chaud. Donc effectivement, il y a un côté plus luxueux. Mais est-ce que ça ramène le patrimoine culturel et signature de la marque? Je trouve pas.
L'un de vos logos préférés, le train?
Absolument. Je trouve que le logo du TGV Inouï, par exemple, est assez beau parce qu'il a deux fenêtres. En fait, il est encadré comme deux fenêtres, c'est-à-dire que ça nous invite au voyage.
La grande spécificité du transport, c'est qu'il concerne des véhicules qui bougent et souvent à l'extérieur. Leurs logos doivent donc se voir de loin et être reconnaissables. C'est en tout cas l'avis de Reza Bassiri, qui dirige la création à l'agence Carré Noir à Paris.
Pour cela, je trouve que les logos de la NASA sont les plus marquants. Avec NASA, unique, rouge, porte le nom charmant de Worm, le ver de terre, est tellement reconnaissable. Prenez l'automobile, vous aurez souvent des symboles exprimant la liberté. Les constructeurs anglais utilisent quasiment tous des ailes. Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley, Mini. Idem du côté des Japonais avec l'aile de Honda ou les ailes de Mazda.
Puisque nous sommes sur RFI, une radio internationale, n'oublions pas qu'un logo, s'il est fait pour un transport mondial, doit s'adapter au pays où il se trouve. Et oui, les symboles, les couleurs, les valeurs ont aussi leurs différences selon les cultures du monde.
La chronique des transports à retrouver sur RFI.fr. Un tunnel long comme la carlingue d'un avion, des photos de clés de Gaza, on en parlait ici même, un immense mur recouvert de pages d'un livre. Tout ça, ça se passe à la Biennale d'art contemporain de Lyon, dans le sud-est de la France, où José Marinho a écumé les expositions et il s'est arrêté devant une tente qui abrite les dessins de l'artiste franco-marocaine Choro Krièch.
Au Grand Loco, nouveau site de la Biennale d'art contemporain de Lyon, la claque, ou plutôt la caresse, se fait attendre. Elle nous émerveille dès l'entrée dans ce lieu de plus de 20 000 mètres carrés où se trouve le gigantesque chapiteau poétique de l'artiste franco-marocaine Choro Krièch.
C'est un chapiteau qui s'appelle l'Oasis des oiseaux, qui serait un peu un point d'arrivée, un point de refuge, un point de circulation aussi, qui retracerait un petit peu des histoires, des récits, des villes que j'ai visitées, traversées.
Artiste globe-trotteuse, son ensemble de dessins à l'encre de Chine nous embarque pour un voyage aérien sur les villes de Bangkok, Riyad ou Tokyo.
J'aime beaucoup cette histoire de travailler sur la ville, car elle est vraiment la projection de nos fantasmes, de nos désirs, mais également de tout ce que l'homme est capable d'y construire. Ces architectures qui surgissent de terre et qui s'élèvent toutes dans la verticalité. Il y a d'autres villes, tout simplement, comme Lyon, où j'ai fait toutes mes études, et Marseille, où je vis depuis une vingtaine d'années.
Beaucoup de villes, mais dans son univers, on note pratiquement l'absence de personnages. Ses œuvres, essentiellement en noir et blanc depuis ses débuts il y a 25 ans, brouillent les pistes en construisant des nouveaux paysages.
On est plutôt dans des dessins plutôt figuratifs en noir et blanc, avec des formes plutôt réalistes. Il y a des changements d'échelle, il y a des cohabitations assez dingues. Parfois, on a des ailes accrochées à des bâtiments, on a des manèges ou des lanternes qui sont portées par des oiseaux qui surgissent d'un peu nulle part et qui se mêlent à des paysages urbains. Alors ces paysages urbains, ils sont existants parce que j'aime beaucoup travailler aussi avec des photos d'archives. Hein. Et justement, les différents spectateurs et spectatrices ont toujours une impression de déjà-vu. Il y a une espèce un petit peu de territoire commun et qui fait, pour le coup, la géographie faisant l'histoire, qui fait histoire commune.
À la manière d'un oiseau migrateur, la dessinatrice de 47 ans survole les cimes des rêves et de la terre, créant des ponts entre passé, présent et futur.
Beaucoup d'oiseaux dans toute cette aventure-là, ils peuvent voir le monde à 360 degrés. L'imaginaire aussi de l'oiseau, c'est aussi un imaginaire qui se déplace de l'Antiquité à nos jours. Dans toutes les cultures, c'est une figure qu'on retrouve. Et c'est une figure également que je trouve intéressante pour justement et le déplacement du dessin et le déplacement des imaginaires. Il appartient à tellement d'époques et à tellement de cultures que c'est quelque chose qui, pour le coup, ne cesse de migrer. C'est un descendant des dinosaures.
À la 17e Biennale d'art contemporain de Lyon, Choro Krièch y déploie une ville-monde qui se veut libre et sans frontières comme les oiseaux.
José Marinho et cette Biennale d'art contemporain de Lyon, c'est jusqu'au 5 janvier 2025. Vincent Biteau en régie me dit qu'il faut que je me dépêche, le temps presse. Restez avec nous à suivre Afrique Midi, juste après ceci.
Tout à l'heure sur RFI,
Éco d'ici, éco d'ailleurs, Bruno Faure.
L'intelligence artificielle est présentée comme l'avenir de nos économies, mais dans les faits, rend-elle les salariés plus productifs ? Et les entreprises de l'IA sont-elles déjà rentables ? Certains investisseurs commencent à exprimer ouvertement leurs doutes et parlent d'un grand mirage financier.
Éco d'ici, éco d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure, à 23h10 TU, sur RFI.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Une croûte, un plat enveloppé dans une pâte cuite. La croûte, merveille de croustillant et de fondant, imprégnée des saveurs qu'elle capture et enveloppe. Une tourte pour préserver, une croûte pour raconter un lieu, un moment, un trésor garni. Fascinante, passionnante, délicieuse, la croûte ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde, Clémence de Navy sur RFI.